La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, peut-on faire monter la science sur les planches ? Il n'est pas nécessaire d'être historien des sciences ou de l'art pour savoir que les sciences agissent régulièrement comme une source d'inspiration pour les artistes et que cette influence est réciproque. Il existe manifestement une tension féconde entre ces deux polarités de l'esprit humain qu'une vigoureuse dialectique semble même articuler. De là à penser qu'il y aurait une sorte de convergence entre les sciences et les arts, il y a un pas qu'il faut se tenir de franchir trop rapidement. Sans doute les scientifiques et les artistes partent-ils du même refuge, qui est la condition humaine et ses pulsions créatrices, mais visent-ils pour autant le même sommet par des voies différentes ? Le croire relèverait sans doute d'une nostalgie naïve plutôt que d'un véritable projet. Car à bien y regarder, les différentes pratiques culturelles de l'humanité ont plutôt tendance à s'autonomiser. Reste qu'une fois séparés, les sciences et les arts peuvent parfaitement converser, interagir, s'influencer, et même collaborer de façon explicite. C'est du moins ce que pensait Bertolt Brecht. Dans un texte inachevé daté de 1945, intitulé « L'achat du cuivre », il écrivait ceci. « Les gens qui ne comprennent rien à l'art ni à la science croient que ce sont là deux choses immensément différentes, dont ils ignorent tout. Ils s'imaginent rendre un service à la science en lui permettant d'être sans imagination, et ils croient faire progresser l'art en empêchant quiconque d'en attendre de l'intelligence. Il se peut que tel homme ait un don particulier pour une discipline particulière, mais il n'est pas d'autant plus doué dans cette discipline qu'il est plus incapable dans les autres. Même si l'humanité a dû souvent et longtemps se passer du savoir comme de l'art, il reste que l'un et l'autre sont essentiels à ce que nous considérons être l'humain. Il n'existe personne qui soit totalement dépourvu de savoir, et il n'existe personne qui soit totalement dépourvu d'art. » Fin de citation. La question que je voudrais poser aujourd'hui est celle-ci. Quid du théâtre ? Quid de la science au théâtre ? La scène peut-elle devenir le lieu commun de la science et du théâtre ? Si oui, comment faire monter la science sur les planches ? Une anagramme, qui n'existe que par l'effet du hasard, semble vouloir nous encourager à aller y voir de plus près. Cette anagramme, c'est celle de la théorie de la relativité restreinte, qui est, je vous le donne en mille, « loi intersidérale et vérité théâtrale ». Ou bien « vérité intersidérale et loi théâtrale », c'est comme on veut. Après tout, il y a bien une pièce de théâtre, ou plutôt un opéra, qui s'intitule « Einstein on the Beach ». Mon invité s'appelle Elisabeth Bouchaud. Bonjour Elisabeth Bouchaud.
Bonjour Étienne Klein.
Vous êtes à la fois une femme de science et une femme de théâtre. Et j'aimerais donc vous interroger sur les liens que vous voyez entre les deux. Vous êtes femme de théâtre à double titre, d'une part parce que vous êtes comédienne, et d'autre part parce que vous dirigez un théâtre. C'est une aventure qui m'intéresse et que vous allez devoir nous raconter. Et d'ailleurs, vous êtes une parfaite illustration de ce que disait Brecht tout à l'heure, à part que vous êtes une femme alors qu'il parlait d'un homme. On peut avoir un talent dans un secteur sans que ce soit au prix d'un moindre talent dans d'autres secteurs. Alors, commençons, si vous le voulez bien, par parler de vos travaux scientifiques. Vous êtes physicienne, spécialiste des matériaux. Qu'est-ce qui vous a intéressé au long de votre carrière, qui vous a valu de nombreux prix ? J'ai été très impressionné, j'ai vu que vous aviez une centaine de publications dans des revues à référer. Vous avez été invité dans des centaines de conférences. Vous en avez organisé plusieurs qui étaient des conférences internationales. Donc vous avez une activité scientifique majeure. En quoi a-t-elle consisté ? D'ailleurs, elle continue, donc en quoi consiste-t-elle ?
Je me suis intéressée effectivement aux propriétés mécaniques des matériaux. Et ce sont des choses finalement, des expériences extrêmement quotidiennes. Casser un objet, le déformer, c'est une expérience que l'on fait tous dans la vie de tous les jours. Et pourtant, ce qui m'intéresse, c'est que derrière cette trivialité, pourrait-on dire, de l'expérience, il y a des choses à comprendre, il y a une espèce de mystère qui est relié à la structure même du matériau, à sa structure intime. Et c'est ça qui m'a intéressée.
Si je comprends bien, Elisabeth Bouchaud, ce qui vous intéresse, c'est la rupture, la cassure.
Oui, je pourrais résumer ainsi ma carrière scientifique. J'ai commencé par faire une thèse dans les polymères, qui, suivant le petit fictionnaire illustré, se dit d'une mère qui a beaucoup d'enfants, c'est pas un polymère. Et je termine dans la rupture. Donc on peut dresser un portrait psychologique de cette...
Du mariage au divorce.
Voilà, de l'enfantement au divorce. Mais plus sérieusement, ce qui m'intéresse, c'est le mystère que recèle le quotidien. Je ne sais pas pourquoi, ce sont des choses qui m'ont davantage fascinée que des choses qui, peut-être, parlent à plus de gens, qui font rêver davantage de gens, comme l'astrophysique, la physique des particules. C'est vraiment ces choses très quotidiennes, très, très simples, mais qui recèlent une grande complexité, qui m'ont toujours fascinée.
Alors par exemple, qu'est-ce qu'il y a de mystérieux dans le fait de casser un verre ?
Alors d'abord, le verre est un objet mystérieux. On a beau utiliser le verre depuis 4000 ou 5000 ans, on ne comprend toujours pas ce qu'on appelle la transition vitreuse, c'est-à-dire ce qui fait passer, quand on refroidit un liquide très très rapidement, les atomes n'ont pas le temps de se mettre au garde-à-vous comme dans un cristal. Et finalement, on fige plus ou moins, mais c'est dans ce plus ou moins que réside le mystère, la structure désordonnée du liquide.
Et le verre est un liquide.
Eh bien, justement, tout le paradoxe réside
là. En tout cas, il en contient.
En tout cas, le verre, la structure du verre n'est pas très différente de celle d'un liquide. L'un coule, l'autre pas. Pourquoi ? Et ça, c'est un des problèmes de la physique du solide qui est récurrent, et il y a toujours une large communauté qui continue à faire des recherches. Il y a eu ces 10 dernières années des avancées majeures d'ailleurs dans ce domaine, mais ça reste toujours un problème irrésolu.
Est-ce que c'est une bonne définition du verre, ça, de dire que c'est un liquide qui ne coule pas ?
Oui et non. Oui, parce que, encore une fois, sa structure est presque celle d'un liquide. Il n'y a pas de différence. La position des atomes n'est pas différente dans un verre et dans un liquide. Et pourtant, il ne coule pas.
Mais il se casse.
Et il se casse. Et
est-ce qu'on comprend ce qui se passe quand il se casse ?
Ben, c'est exactement l'objet de mes recherches
est-ce que vous avez compris ?
Actuelles. Non, parce que j'ai voulu commencer par forger des outils, si vous voulez, d'observation, définir des quantités intéressantes pour des transitions, c'est-à-dire des passages de l'état liquide à l'état solide que l'on connaît mieux. Par exemple, la gélification. Donc j'essaye de regarder ce qui se passe quand on passe d'un liquide avec des molécules polyfonctionnelles, donc un peu compliquées. On arrive à former un gel qui est un matériau très mou, hein, typiquement la gélatine qu'on met dans l'alimentation. Et j'essaye de regarder ce qui se passe du point de vue de la réponse à la propagation des fissures. Dans ce cas-là, avant d'aller vers un problème plus complexe qui est celui des verres, parce que là au moins, la gélification, on comprend très bien, c'est très bien documenté, on sait très bien ce qui se passe. Et donc l'idée, c'est de forger les outils, de savoir ce qu'il faut observer dans ce cas-là, pour ensuite pouvoir l'appliquer à une transition que l'on ne comprend pas, qui est la transition vitreuse. Donc c'est vraiment ça l'objet de...
Mais est-ce que vous vous intéressez à d'autres matériaux que les verres, par exemple aux cristaux ? Est-ce qu'il y a des matériaux qui ne se cassent pas et on comprend pourquoi ils ne se cassent pas ?
Alors des matériaux qui ne se cassent pas, je n'en connais pas.
Déforment, qui sont très élastiques.
Qui sont très plastiques, donc qui se déforment beaucoup avant de se casser. Bien sûr, ce sont les métaux. Là, on a, sur les métaux, je dirais... compris davantage de choses, en tout cas sur les cristaux purs. On connaît la théorie des dislocations, nous dit comment les matériaux métalliques se déforment, etc. Moi, ce qui m'a intéressé, puisque j'ai commencé ma carrière à l'ONERA, l'Office National d'Études et de Recherche Aérospatiale, et là, je cassais des alliages à vocation aéronautique, parce que au fond, c'est ce que j'avais sous la main. Et puis, c'est ce qui intéressait les gens autour de moi. Donc, j'ai cassé des alliages aéronautiques. Mais là, ce qui m'intéressait dans le cas des alliages aéronautiques, c'est un peu finalement ce qui m'intéresse dans le verre, c'est le caractère désordonné de la structure du matériau. C'est-à-dire que ce sont en général des polycristaux, c'est-à-dire que oui, les atomes sont un peu au garde-à-vous et bien rangés, mais seulement dans une petite portion qu'on appelle le grain de ce matériau. Et il y a plusieurs grains qui sont désorientés les uns par rapport aux autres. Puis à l'intérieur même d'un grain, il y a énormément de désordre, c'est-à-dire que tout n'est pas si bien rangé. Et moi, ce qui m'a intéressé, c'est de comprendre comment de ce désordre, finalement, émergent certaines lois très universelles, de façon un peu inattendue. Par exemple, si on regarde la morphologie d'une surface de rupture, c'est-à-dire vous prenez un objet, vous le cassez en deux, la surface que vous obtenez, eh bien, elle a des propriétés qui sont les mêmes que vous regardiez un alliage métallique, un verre, du bois, du ciment, sauf que cette structure très particulière est la même, mais à des échelles très différentes suivant les matériaux. Et cette échelle, c'est l'échelle du désordre.
Et donc on arrive à trouver des lois universelles qui valent pour des comportements qui en apparence sont très différents.
Absolument.
La oui. diversité des matériaux se résume à des lois beaucoup plus simples qui s'appliquent à...
Oui, il y a toute une partie des lois qui sont effectivement universelles, et puis il y a d'autres caractéristiques, bien sûr, qui relèvent du matériau. Par exemple, si vous regardez une surface de rupture d'un verre et une surface de rupture d'un métal, il y a des choses qui sont extraordinairement similaires, mais quand vous devez regarder le métal à l'échelle de la centaine de micromètres, par exemple, pour voir la même chose, vous devez regarder la surface du verre à l'échelle de la dizaine de nanomètres. Donc on voit que les échelles sont très différentes, beaucoup, beaucoup plus faibles pour le verre que pour le métal.
J'imagine que les recherches que vous menez intéressent beaucoup d'industriels, parce qu'elles ont des applications.
Oui, elles intéressent les industriels. Alors, plus ou moins, parce que quand on dit à un industriel qu'on a une loi universelle, il dit, ben, du coup, à quoi ça sert?
Alors, à quoi ça sert
que, voilà, à quoi ça sert puisque c'est universel? Oui, parce qu'au fond, l'intérêt, c'est de pouvoir tester la différence entre deux matériaux. Donc, si on s'intéresse aux choses qui sont communes dans le phénomène de rupture entre deux matériaux, ça les intéresse beaucoup moins.
Ça permet au contraire une économie de moyens, puisqu'en cassant un matériau, on peut savoir des choses
Absolument.
Sur d'autres matériaux.
Absolument. Et ce qu'on a réussi à faire, en tout cas, dans le cas de la rupture élastique, qui est le cas le plus simple, par exemple, c'est de donner une équation, d'arriver à une équation de la propagation d'un front de fissure dans un milieu élastique désordonné. Alors, c'est l'étape première, c'est une chose relativement simple quand le matériau est élastique. Ça l'est beaucoup moins quand on ajoute des choses comme la plasticité, qui est évidemment extrêmement importante dans les métaux. Mais c'est une première étape. C'est bien sûr, comme vous le dites, l'économie de moyens, au fond, c'est la modélisation. C'est-à-dire qu'on va avoir un modèle qui pourra être enrichi par la suite, mais à minima, rend compte de cette universalité.
Est-ce que la cassure vous intéresse même lorsque vous êtes en dehors du laboratoire, quand vous voyez un verre qui se casse en faisant la vaisselle, par exemple, est-ce que vous regardez la surface de rupture ou est-ce que c'est des choses que vous connaissez tellement qu'elles ne vous attirent plus?
Si, elles m'attirent, par exemple, de savoir à partir de quel moment le verre se casse. Pourquoi, quand vous êtes à la cantine avec votre plateau, puis que vous avez ces verres assez solides qu'il y a dans les cantines, vous faites tomber le verre et il rebondit plusieurs fois avant de se casser.
Parfois, il ne se casse pas.
Parfois, il ne se casse pas. Alors, il ne se casse pas parce que, effectivement, ce n'est pas du verre de silice pur. Les verres sont traités, comme les pare-brises, par exemple, c'est du verre traité. Il y a une fine couche d'élastomère entre les plaques de verre qui fait que c'est moins dangereux si jamais vous avez un projectile qui vient heurter votre pare-brise. Mais... oui, c'est des questions qui m'obsèdent.
Bon, alors, il faudrait que vous veniez chez moi, parce que à la maison, on casse beaucoup de verres lors des opérations dites de vaisselle. Mais si vous voulez bien, on a vu à peu près votre intérêt pour certaines questions scientifiques. Votre intérêt pour le théâtre, est-ce qu'il est né en même temps? Est-ce qu'il est né parallèlement à votre vocation scientifique? Comment ça s'est articulé dans votre propre itinéraire?
Oui, c'est né parallèlement, puisque j'étais vraiment toute...
J'ai oublié de te dire que vous aviez été formée au théâtre au Conservatoire National d'Art Dramatique de Bourg-la-Reine, c'est bien ça?
Oui, alors en fait, j'ai toujours voulu faire du théâtre. Depuis que je suis toute petite, vous me posiez la question quand c'est arrivé. Je crois que la première fois que je suis montée sur les planches, c'était lors d'un cours de français en classe de 5e, où la prof nous faisait jouer des petite scène des Fourberies de Scapin, et le virus m'a pris et ne m'a plus quitté. Je dois dire que la fascination pour le théâtre est née aussi de ma fascination pour la langue française. Alors, la langue française, c'est ma langue maternelle. Ceci dit, moi, je suis née en Tunisie, je suis arrivée en France quand j'avais 3 ans, et j'ai, pour le français, cette espèce d'émerveillement, d'amour, comme si c'était une langue étrangère, c'était la langue de mon pays d'accueil et non pas de mon pays de naissance. Et donc j'ai cette espèce de... oui, je suis amoureuse de la langue française. Et ça, ça a beaucoup contribué, au fond, à ma fascination pour le théâtre.
Et cette fascination a été préalable à l'intérêt pour la science?
Non, parce que j'aimais aussi énormément, à l'époque j'aimais beaucoup quand j'étais au collège et au lycée, j'étais fascinée par les mathématiques. J'aimais énormément les maths, la logique me fascinait, j'étais vraiment... non, j'aimais autant le
français. Donc c'est une histoire d'amour dans les deux cas.
C'est une histoire d'amour dans les deux cas, absolument. Oui.
Qui ne s'opposait pas, qui se fécondait peut-être l'un l'autre, je ne sais pas.
Qui se fécondait à cette époque-là, c'est difficile à dire, mais j'étais, oui, amoureuse de la science et amoureuse de la langue française et du théâtre. Alors, mon amour pour le théâtre a été un amour contrarié, alors que mon amour pour la science ne l'a pas été, parce que ma famille voyait d'un très mauvais œil que j'ai envie de faire du théâtre.
Pour quelle raison ?
Pour plusieurs raisons, parce que ça avait mauvaise presse, c'est pas un milieu très recommandable. Enfin, dans l'esprit de mes parents, ce n'était pas un milieu très recommandable. Moi, je le recommande chaleureusement. Et puis, moi, je suis d'une famille modeste et la science était un passeport d'ascension sociale. Par ailleurs, je crois que la science était un milieu masculin. Et pour cette raison-là, parce que j'ai été élevée dans un milieu très féminin, j'ai été jusqu'en terminale dans un lycée de jeunes filles, j'avais aussi envie d'un milieu masculin, donc faire des sciences, c'était aussi ça. Mais donc le théâtre, lui, a été un amour contrarié, et ça n'est que quand je suis arrivée en troisième année de mon école d'ingénieur à Châtenay-Malabry que je me suis dit que peut-être je pouvais m'inscrire au conservatoire, et donc c'est là effectivement que j'ai commencé, et je me suis inscrite à Bourg-la-Reine, parce que c'était l'école
Mais est-ce qu'on dit souvent que pour les femmes, c'est plus difficile de faire une carrière scientifique que pour les hommes? Est-ce que vous avez senti des obstacles?
Oui, j'ai senti absolument que pour être prise au sérieux quand on est une femme, il faut travailler davantage. Il faut convaincre beaucoup plus. C'est un travail permanent. Et... j'en discute très souvent avec mes collègues plus jeunes au laboratoire, celles qui viennent d'avoir un poste dans la recherche, celles qui sont en thèse ou en post-doctorat. Et nous avons toutes ce même sentiment. Il faut vraiment travailler beaucoup plus qu'un homme pour être prise au sérieux.
Et vous voyez que les choses évoluent ou c'est quelque chose qui est tellement ancré dans les habitudes que rien ne peut les changer ?
M'autorisez-vous à être pessimiste ? Non, je ne vois pas les choses évoluer beaucoup.
Dans le domaine de la recherche ?
Dans le domaine de la recherche.
Mais c'est la recherche qui serait, entre guillemets, victime d'un mouvement général ou il y a quelque chose de particulier ?
Non, je crois que ça dépend des disciplines aussi. Moi, je vous parle d'un domaine qui est à la frontière entre la physique et la mécanique, qui est encore un domaine très, très majoritairement masculin et où les femmes ont du mal à percer. Je pense que dans d'autres domaines, la biologie, la chimie, qui sont beaucoup plus féminins, les choses sont plus faciles et se sont beaucoup améliorées au cours des années.
Vous avez été professeur, enfin vous continuez je crois à enseigner.
Oui, j'enseigne un petit peu donc à l'ESPCI, l'École supérieure de physique et chimie industrielle de Paris.
Et est-ce que vous voyez un rapport entre le fait de donner un cours à des étudiants et le fait de monter sur scène pour jouer un rôle ?
Oui, je crois que d'ailleurs le théâtre, faire du théâtre m'a beaucoup aidée. D'abord pour des raisons techniques, parce qu'on sait porter sa voix, on sait prendre les silences qu'il faut, on sait mettre en exergue simplement par la diction ce qui est important et le différencier de ce qui l'est moins. Donc tout cela, je crois que ce sont des choses que j'ai apprises au théâtre et qui me servent beaucoup quand j'enseigne, très certainement.
Mais est-ce que vous iriez jusqu'à dire que les professeurs devraient avoir une formation théâtrale ?
Je le crois. Et même les chercheurs qui donnent des conférences. Parfois, il y a d'excellents chercheurs et qui sont aussi, finalement, des bêtes de scène, qui sont formidables, qui du coup font passer le message scientifique très facilement, très agréablement. Et puis, il y a des chercheurs formidables qui font des travaux absolument exceptionnels et qui n'arrivent pas à les communiquer quand ils donnent une conférence. Et je trouve que c'est dommage parce que, oui, on pourrait imaginer qu'ils apprennent ces quelques techniques.
Elisabeth Bouchaud, vous êtes donc comédienne ou actrice, je sais pas ce qu'il faut dire. Comédienne ?
L'un ou l'autre, moi je dis comédienne, mais je ne sais pas s'il y a une...
Quels sont les rôles qui vous ont marqué ? Quel genre de pièces avez-vous joué ? Est-ce que c'était des pièces scientifiques ? Est-ce que c'était des
pièces... Alors, non, j'ai joué la plupart du temps des rôles qui n'avaient rien à voir avec la science. Je peux dire, le rôle qui m'a valu mon prix au conservatoire, je jouais, en toute simplicité bien sûr, la déesse Minerve dans les Euménides d'Eschyle. Et
carrément.
Ça, c'était, voilà, c'est un rôle qui m'a beaucoup plu. J'ai aussi joué Madame dans Les Bonnes de Jean Genet. Ça, c'est aussi un excellent souvenir.
Vous avez joué la reine dans L'Aigle à deux têtes de Cocteau.
Oui,
c'est pas des petits rôles comme Madame, la Reine, Minerve.
Non, c'est vrai, c'était des productions un peu confidentielles.
Vous avez joué la sagesse aussi dans Le Jour de gloire est arrivé.
Oui, ça aussi, c'était vraiment un rôle de composition. Non, je plaisante. C'était très intéressant dans une pièce moderne, contemporaine. Et j'ai joué beaucoup dans les pièces que j'ai écrites moi-même.
Ah, parce que vous écrivez des pièces aussi.
Oui, j'ai écrit, maintenant, je dois en être à ma 7e pièce de théâtre, qui ont presque toutes été montées, donc j'ai beaucoup de chance. Et je suis d'ailleurs en ce moment sur les planches avec une de mes pièces.
Comment s'appelle-t-elle ?
À contre-voix, mais V-O-I-X. Et c'est l'histoire d'une amitié orageuse, passionnelle et dans un certain sens initiatique de deux chanteuses lyriques que tout sépare, a priori, dans la France des années 30.
Alors, Elisabeth Bouchoux, tout ça est assez impressionnant, je dois dire. Mais comment est-ce que le monde de la science voit-il, comprend-il le fait que vous soyez une femme de théâtre ? Et comment est-ce que le monde du théâtre vous reçoit en tant que scientifique ?
Alors le monde de la science, je dirais, ça dépend un peu des communautés. À l'ESPCI...
Le SCPI, c'est l'école supérieure...
De physique et chimie industrielle de Paris... où je travaille actuellement, les choses, ça a été extrêmement bien reçu. Ça les a intéressés. J'ai abandonné mon poste à la direction de l'enseignement que j'ai occupé jusqu'au 1er décembre 2015. Je crois que la direction a très bien compris, ça a beaucoup intéressé les gens, donc ça a été finalement très bien pris, ce qui n'a pas toujours été le cas les années précédentes où j'étais encore moins prise au sérieux dans certaines communautés
scientifiques
parce que je faisais du théâtre. Alors j'étais une femme, plus je faisais du théâtre, ça faisait beaucoup de choses qui me différenciaient trop peut-être du chercheur idéal.
Vous étiez une femme et en plus vous faisiez du théâtre.
Voilà, ça faisait beaucoup de tard.
Mais alors du côté du théâtre, comment est-ce que vous êtes reçue ?
Du côté du théâtre, j'intrigue. Je ne pourrais pas répondre à cette question, si vous voulez, de façon globale. J'ai l'impression que... Pour certaines personnes, c'est intriguant et c'est intéressant. Pour d'autres, je suis finalement quelqu'un qui essaye de tout faire, qui est une dilettante, un peu ce qui a été le cas dans certains cercles scientifiques.
Mais vous êtes en train de devenir quelqu'un d'important dans le théâtre, puisque vous dirigez maintenant un théâtre qui s'appelle le Théâtre de la Reine Blanche. Il y a d'ailleurs une certaine ironie dans le nom de ce théâtre, puisque... Ça a été dit tout à l'heure, vous avez joué le rôle de la reine dans L'Aigle à deux têtes de Cocteau, celui de la reine Marguerite dans une scène tirée du Roi Semeur de Ionesco. Donc la reine, c'est quelque chose qui vous suit. Alors, comment est-ce que ça se passe ? J'ai du mal à comprendre comment on peut être amené comme ça à diriger un théâtre quand on est chercheur en physique.
Alors d'abord, c'était un rêve, c'est un très vieux rêve de quand on aime le théâtre. On a envie de faire sa programmation, bien sûr, à la fois de jouer mes propres pièces, mais pas seulement, de donner leur chance à un certain nombre de gens qui ont du talent. Donc on a envie d'avoir un lieu. Et puis c'est très difficile, c'est très cher, et puis c'est très difficile d'acheter un théâtre. Donc ça n'a pas été possible jusqu'à il y a un peu plus d'un an. Et voilà, pour la petite histoire, mon mari, qui n'était pas mon mari à l'époque, quand on avait 20 ans, m'a dit un jour je t'achèterai un théâtre. Et puis voilà, c'est arrivé.
Il a tenu promesse.
Il a tenu promesse. Donc,
dis donc.
C'est merveilleux. Donc, une belle histoire.
Donc ce théâtre s'appelle le Théâtre de la Reine Blanche.
Je n'ai pas choisi ce nom, mais je ne l'ai pas changé. Quand j'ai racheté le théâtre, il s'appelait déjà le Théâtre de la Reine Blanche. Et je trouve que c'est très beau, c'est très poétique, et peut-être effectivement que la reine, c'est quelque chose qui me touche particulièrement, donc je n'ai pas souhaité changer le nom.
Alors est-ce que vous puisez dans un répertoire de pièces plutôt scientifiques, ou est-ce que vous ajoutez un répertoire classique des interventions de scientifiques qui viennent faire des conférences ou des présentations ?
Alors, il y a un peu des deux. D'abord, l'envie de mettre de la science sur scène, c'est au fond parce que je crois qu'on peut transmettre au grand public, c'est-à-dire à des gens qui n'ont pas vocation à devenir des spécialistes de la science, mais à en comprendre un minimum pour simplement devenir des citoyens responsables. Je pense aux grandes questions concernant l'énergie, le climat, etc., où il me semble que tout un chacun devrait comprendre un minimum ces problématiques pour faire des choix judicieux en tant que citoyen, encore une fois. Mais communiquer le discours scientifique à des gens à qui, pour la plupart, on a dit qu'ils étaient illégitimes à comprendre et même à écouter de la science, je crois qu'il faut passer par l'émotion plutôt que
par... Vous parlez des traumas de l'école ?
Absolument, je parle des traumas de l'école. Il y a énormément de gens à qui on a dit « Oh, bah, toi, t'as pas la bosse des maths, tu comprendras jamais rien ». Peut-être plus en France que dans les pays anglo-saxons, d'ailleurs, parce que tout est très théorique, tout est très dogmatique, ça repose beaucoup sur les mathématiques. Alors, je crois d'ailleurs qu'on se prive de beaucoup de talents, de gens qui ont une approche de la science plus intuitive, plus expérimentale. Et c'est dommage. Mais oui, il y a beaucoup de gens qui ont été traumatisés petits et qui ne souhaitent plus entendre de science parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas cette légitimité, que de toute façon ils ne comprendront rien, qu'ils seront ridicules et donc ils ne veulent plus l'entendre. Et ce sont des gens qui auront du mal à pousser la porte d'établissements où la science est en général divulguée, qui sont les établissements d'enseignement supérieur, les instituts de recherche, les musées, bien sûr, des sciences, où on fait de la très bonne vulgarisation. Mais ces gens-là, je me dis, peut-être qu'ils pousseront plus facilement la porte d'un petit théâtre, d'un théâtre de quartier, nous sommes un petit théâtre, pour venir écouter de la science.
Alors c'est pareil que l'émotion est le vecteur de la connaissance, finalement.
Je pense en tout cas qu'elle y contribue beaucoup. Et si on touche les gens, ils comprendront plus facilement, oui, c'est vrai.
Mais alors, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que, finalement, l'objectivité de la science, qu'on met souvent en avant, elle passe par un repli du sujet qui parle? C'est-à-dire, souvent, quand un scientifique parle, il fait comme si c'était le réel qui parlait au travers de lui, et donc essaie de neutraliser tout ce qui pourrait venir de ses émotions, de sa sensibilité, et même de son corps.
Mais je pense qu'il faut un certain recul, bien sûr, parce qu'il faut une certaine objectivité, une certaine rigueur. La science demande ça. En même temps, je crois d'une part que l'émotion est une partie extrêmement importante du travail du chercheur. Au fond, les chercheurs, ils sont vraiment amoureux de l'objet de leur recherche. Ça, je le crois très profondément.
Donc vous êtes amoureuse des mathématiques, de la langue française et de la cassure.
Voilà, exactement. Et de la physique statistique. Et... Voilà. Bon, j'ai un très grand cœur.
Voilà.
Je crois qu'effectivement, il y a beaucoup d'émotions dans le travail de recherche. On s'implique entièrement, on s'implique passionnément dans son travail de recherche. Alors bien sûr, ensuite il faut le passer au crible de choses qui sont plus objectives, où la passion et l'émotion sont plus loin. Mais je crois que ça participe à la créativité des chercheurs, très certainement. Et par ailleurs, il est vrai qu'il y a une grande objectivité, mais que aussi, si vous voulez, prenons par exemple un chercheur qui fait une expérience scientifique. S'il n'a pas à l'esprit une grille de lecture de cette expérience scientifique, il ne verra rien. Parce que c'est très complexe. C'est comme la réalité, c'est comme... C'est vraiment extrêmement compliqué. Il faut donc une grille de lecture. Et ça, déjà, vous voyez qu'on s'éloigne un peu de l'objectivité. Alors l'objectivité, d'où elle vient, c'est que cette expérience qui a été interprétée d'une certaine façon par un certain chercheur, pour qu'elle soit validée, il faut qu'un autre groupe dans le monde refasse cette expérience, obtienne des résultats similaires et en donne une interprétation similaire. Sinon, elle ne sera pas validée. Et là, on récupère, disons à grande échelle, une certaine objectivité.
Mais alors, est-ce que vous avez des souvenirs personnels d'émotions comme ça, ressenties à l'occasion d'un résultat d'expérience ou d'un...
Ah, tout à fait, tout à fait. La première fois, par exemple, que j'ai vu cette universalité dans des surfaces de rupture dans mes résultats expérimentaux, j'étais aussi heureuse et excitée que la première fois qu'une de mes pièces a été montée au théâtre, par exemple.
C'est le même genre de joie ou c'est des joies...
Oui, c'est la même joie.
C'est la même
oui.
joie.
Oui, c'est la même joie.
Avec de la tachycardie à la clé, comme chez Einstein, quand il avait
Bien
l'impression
sûr.
D'avoir fait une grande découverte.
Bien sûr, avec de la tachycardie, avec l'envie de danser, avec... c'est la même joie.
Et donc, est-ce qu'on pourrait dire, à cette étape de notre discussion, que la recherche scientifique et l'expérience du théâtre sont deux façons d'obtenir ce genre de joie ?
Je crois que c'est le même désir et c'est la même joie in fine. C'est le même désir
sans que ce soit le même objet.
Sans que ce soit le même objet. Oui, sans que ce soit le même objet. Les chemins sont très différents, mais l'envie est la même et la joie est la même. Et on est la même personne. Enfin, je suis la même personne.
Est-ce qu'il n'y a pas une grosse différence qui serait, par exemple, le trac ? Le trac du comédien que n'a pas le chercheur en général ?
Bah, le chercheur, là, non pas quand il fait ses...
Quand il fait ses conférences.
Ses recherches, mais quand il fait ses conférences. Moi, je suis morte de peur à chaque fois que j'entre sur scène et morte de peur à chaque fois que je dois donner une conférence. Et je crois, vu l'âge que j'ai, que ça ne passera pas.
Bon, c'est la preuve du talent, disent certains, le trac.
Disait Jouvet, oui, c'est ce que je me répète pour m'en consoler, du trac.
Vous écoutez France Culture, la conversation scientifique par Étienne Klein.
Alors, est-ce qu'on peut en dire un peu plus, Isabelle Bouchaud, sur la programmation de votre théâtre ? Il y a donc des pièces classiques ?
Oui, il y a des pièces contemporaines. On fait du théâtre essentiellement du théâtre contemporain. Donc, je vous donne un exemple. On a en ce moment, donc outre ma propre pièce dont nous avons parlé, une pièce qui s'appelle Les émigrés de Mrojek. C'est une pièce polonaise contemporaine. Il y a une pièce de Jean-Luc Lagarce qui s'appelle Music Hall, très belle pièce aussi. Et puis il y a tout le programme finalement scientifique qui va de la conférence qu'on appelle les scènes de science, la série des scènes de science, où un scientifique ou plusieurs scientifiques viennent parler de leurs recherches au grand public, donc avec des mots simples, de manière plus ou moins théâtrale. Ce sont des scientifiques, ils sont plus ou moins à l'aise sur la scène du théâtre. Donc parfois ce sont simplement des conférences, mais qui s'adressent encore une fois au grand public. Parfois, c'est un peu plus théâtralisé. Parfois, le public participe même. On a eu ce genre d'intervention. Ça va donc de ce type d'intervention à des pièces dont l'argument est scientifique. On a eu des pièces sur la découverte des rayons X, sur l'astrophysique. On va avoir une production d'ailleurs de la Reine Blanche, une création, une pièce qui s'appelle Fission en avril. Et qui
sur la découverte de la fission nucléaire donc.
Voilà. Alors en fait, cette pièce traite de l'épisode où les physiciens allemands, Heisenberg, Weizsäcker, Gerlach et Otto Hahn, par exemple, qui sont restés avec l'Allemagne nazie, ont été emmenés près de Cambridge, à Farm Hall, en 1945.
Par les Américains, enfin par les Alliés.
Par les Alliés. Et donc, en fait, ils ne le savaient pas, ces physiciens allemands, mais toute leur conversation était enregistrée.
Plutôt écoutée, je crois.
Écoutée. Et en tout cas, tout ça a été retranscrit, oui, ça a été retranscrit, et ça a été mis dans le domaine public il y a, je crois, une quinzaine d'années.
Oui, parce que les Alliés voulaient savoir où en étaient les Allemands à propos de la bombe atomique.
Absolument. Et c'est un peu le nœud de la pièce de Jacques et Olivier Trainer, qui sera donc mise en scène à la Reine Blanche par Vincent Debost. Dans cette pièce, ces physiciens allemands, c'est le 6 août 45, et ils entendent à la radio qu'une bombe a explosé sur Hiroshima. Et tout d'un coup, ils se rendent compte que eux n'avaient pas la bombe, n'avaient pas réussi à la faire, et que les Américains l'avaient.
Enfin, au début, ils n'y croient pas. Ils pensent que c'est une grosse bombe chimique.
Au début, ils n'y croient pas, absolument. Et puis, ils se rendent compte qu'effectivement, eux s'étaient trompés. Enfin, ne l'avaient pas. Les Américains avaient la bombe. Et donc, dans un premier temps, ils sont effondrés parce qu'ils ont été vaincus en tant qu'Allemands. Et maintenant, ils sont vaincus d'une certaine façon en tant que scientifiques. Et puis, il y en a un qui a l'idée de dire, mais au fond... personne ne le saura jamais. Disons, pour la consommation publique, que nous avions la bombe, mais que nous n'avons pas voulu la donner aux nazis. Donc tout d'un coup, évidemment, le mal change de camp, et ils étaient les méchants, ils deviennent les bons, et les Américains, eux, deviennent les méchants, ils ont fait des milliers de morts. Et donc c'est toute cette problématique que soulève la pièce.
Oui, parce que les conversations enregistrées, enfin en tout cas retranscrites, montrent l'évolution de leur argumentation finalement.
Tout à fait, tout à fait. Et donc il y a une espèce de suspense. Avec un très beau flashback en 1938 où il y a une conversation entre Otto Hahn et Lise Meitner, dont on dit maintenant que sa contribution a été déterminante.
Elle avait déjà fui l'Allemagne, hein, puisqu'elle était juive.
Elle a fui l'Allemagne en 1938.
Et c'est elle qui a vraiment compris les expériences d'Otto Hahn.
Voilà. Et Otto Hahn a été récompensé par le prix Nobel pour la découverte de la fission nucléaire. Et il n'a pas été question de Lise Meitner. J'ai envie de dire encore une femme qui a
été... Sauf que si son nom a été associé à la bombe atomique plus que celui d'Otto Hahn, justement.
Oui, à la bombe atomique, effectivement. Elle a eu les retombées, si j'ose dire, dans ce cas-là.
La double peine.
Négatives de cette découverte, alors que Otto Hahn a seul été couronné par le prix Nobel.
Mais lorsque vous voyez des scientifiques parler sur scène, donc dans un théâtre, le vôtre, est-ce que vous observez une différence par rapport à leur façon de parler dans les amphithéâtres ? Autrement dit, est-ce qu'il y a un effet théâtre, un effet de la scène par rapport à l'amphithéâtre?
L'idée seule de se trouver sur une scène de théâtre fait que les choses changent. Et puis, contrairement à ce qui se passe dans un amphithéâtre, au théâtre, on ne sait pas à qui on s'adresse, à double titre. D'abord, ils ne savent pas quels sont les gens qui vont venir. S'il va y avoir des gens qui connaissent un petit peu leur discipline et qui vont venir par curiosité parce qu'ils ont vu qu'ils donnaient une conférence, s'ils vont avoir des jeunes, des moins jeunes, des gens qui sont complètement ignorants et qui viennent parce qu'il faisait chaud et qu'ils ont poussé la porte du théâtre. Donc ils ne savent pas à qui s'adressent. En plus, en général, les lumières, les feux de la rampe, n'est-ce pas, les empêchent de voir leur public, ce qui n'est pas le cas quand on donne un cours ou même une conférence internationale. Et donc, tout ça fait que l'approche est différente.
Mais il y a peut-être des expériences que vous pourriez faire. Moi, j'ai l'intuition, il faut la vérifier, que si on faisait des cours de physique, par exemple, dans un théâtre, de la même façon, mais simplement c'est dans un théâtre, on aurait une attention et même une capacité de transmettre la connaissance qui serait plus importante que dans un amphithéâtre.
Oui, c'est possible.
Parce que l'attention est différente, le rapport à ce qui est dit est différent, et donc il y aurait peut-être une façon là d'éviter que les étudiants regardent leur téléphone ou leur ordinateur, ce qu'on ne fait jamais dans un théâtre.
C'est vrai, et c'est peut-être c'est une très bonne idée d'organiser des cours. Je vais faire un appel aux bonnes volontés pour essayer d'organiser des cours de physique.
Dans les deux situations, pour les comparer.
Voilà, dans les deux situations. En tout cas, il y a eu aussi une conférence scientifique, par exemple une conférence internationale qui a été organisée à la Reine Blanche. Et je crois que les gens en étaient très contents. Peut-être.
Et vous savez pourquoi ils l'ont dit?
Je crois qu'ils étaient très contents de se trouver finalement dans un lieu insolite. Peut-être qu'ils avaient l'impression d'assister davantage à un spectacle, parce qu'il y a les lumières, les fauteuils, le lieu est complètement différent et peut-être inspire différemment et les conférenciers et ceux qui l'écoutent.
Est-ce que vous avez le projet de faire jouer des pièces déjà écrites dans lesquelles les personnages principaux sont des physiciens?
Je pense à de fission, bien sûr, donc la pièce dont je viens de vous parler.
Mais qui a été écrite spécialement pour vous, je crois, enfin pour le théâtre?
Non, il se trouve que Jacques Trainer est quelqu'un que je connais parce que c'est un physicien, qu'il m'a parlé de cette pièce il y a quelques années déjà.
Avant que vous ayez le théâtre?
Avant que j'aie le théâtre, et quand j'ai acheté le théâtre, je l'ai recontacté et j'ai relu la pièce et on en a discuté et on a décidé ensemble de la produire.
Vous parliez de loi universelle tout à l'heure. Il y a une pièce qui a été écrite par Dürrenmatt qui s'appelle Les physiciens.
Oui.
C'est une pièce qui date de 61 qui met en scène un personnage qui s'appelle Möbius qui a trouvé une loi universelle. Enfin, il a compris l'univers en fait. Et pour éviter que ses travaux tombent dans de mauvaises mains, il simule la folie pour être interné dans un asile, qui s'appelle Les Cerisiers d'ailleurs. Est-ce que ce genre de pièce vous tente?
Oui, j'aimerais beaucoup pouvoir remonter cette pièce.
Les physiciens. Il y en a une autre qui s'appelle Copenhague, qui met en scène Copenhague, la discussion.
Oui, Copenhague 1941.
Alors ça rejoint la pièce sur la fission, parce que c'est la rencontre entre Heisenberg et Bohr à Copenhague pendant la guerre. Oui. On ne sait pas trop ce qu'ils se sont dit, mais sans doute que la question de la bombe atomique qui était en préparation a été évoquée et a créé entre eux alors une rupture, pas au sens de la physique, mais au sens
humain, au sens de l'amitié, oui.
Qui a fait qu'après la guerre, ils ne se sont plus guère rencontrés ou parlés alors qu'ils étaient les meilleurs amis du monde avant.
Oui, et cette pièce était excellente. Moi, je l'ai vue à Paris dans sa version française. Et Fission est tout à fait dans cette veine-là.
Mais est-ce que vous ne trouvez pas étrange qu'il y ait finalement que la science soit peu présente dans le théâtre par rapport au cinéma, par rapport à d'autres genres artistiques comme la littérature?
Je pense que ça va venir.
C'est un vecteur qui a été moins utilisé que d'autres.
C'est vrai. Mais je pense que ça va venir. Je pense qu'il y a un réel besoin des gens de comprendre. C'est évidemment une banalité que de dire qu'on est à une époque où les choses, la technologie basée quand même sur la science s'accélère, où les questions relatives à la science sont de grandes questions de société, comme l'environnement par exemple, sont prégnantes et de plus en plus importante, et que du coup, les gens ont envie de comprendre de la science. Et donc, je pense que ce n'est pas un hasard si le cinéma, par exemple, a présenté, je crois que c'était l'année dernière, un film sur Turing, un film sur Hawking.
C'est assez nouveau, là, que le cinéma s'intéresse au génie. Turing, Tchekhov, pour prendre un exemple plus proche du théâtre, Turing et Hawking et quelques autres, intéressent le cinéma.
Oui,
et en voyant ces films, on apprend en effet de la science. De même que Il y avait eu une pièce il y a quelques années, Les Palmes de M. Schultz.
Oui,
qui a aussi donné lieu à un livre qui permet de comprendre la radioactivité beaucoup mieux que dans beaucoup de manuels de physique.
Oui, tout à fait.
Puisque les questions humaines sont montrées, les conflits, les jalousies, les rivalités. Et ça donne à cette aventure un parfum qui dépasse largement le cadre seulement scientifique de la découverte.
Absolument. Et d'ailleurs, dans cet ordre d'idées, j'ai oublié de vous parler de Marie Curie. Nous allons accueillir Pierrette Dupoyer, qui est une formidable comédienne et auteure de théâtre, qui a un spectacle qui s'appelle Marie Curie ou la science faite femme, et qui va se jouer également à la Reine Blanche. Et à travers le personnage de Marie Curie, on va comprendre effectivement des choses sur la radioactivité, découverte à laquelle elle a contribué ô combien.
Donc ça veut dire que si on veut faire comprendre les découvertes importantes, en l'occurrence de la physique, il faut mettre en scène, à tous les sens du mot, les personnages qui ont fait ces découvertes.
Oui, et c'est peut-être d'ailleurs quelque chose qui manque cruellement à l'enseignement en France, c'est qu'on parle peu des personnes. L'enseignement est souvent de l'histoire de la science qui repose sur un certain nombre de gens qui ont contribué de leur vie. Je pense à Marie Curie, bien sûr, qui a contribué physiquement à cette découverte de la radioactivité. Et ça, c'est quelque chose qui manque, je pense. Et on rejoint là l'importance de l'émotion, au fond. Parce que quand on parle de l'humain, quand on parle de ces gens, on parle aussi de l'émotion et on parle à l'émotion des gens. On parle à leur sensibilité, à la sensibilité de ceux qui nous écoutent. Et donc je pense que c'est une chose importante et qui ce sont des pièces qui devraient avoir toute leur place au théâtre.
Elisabeth Pouchot, là, vous nous avez raconté que vous avez une carrière de physicienne, une carrière de comédienne. Aujourd'hui, vous êtes directrice de théâtre. Il doit y avoir quand même, ne serait-ce que du point de vue de l'emploi du temps, une compétition entre ces différents champs. Est-ce que vous arrivez à les harmoniser ou est-ce que vous êtes en permanence tiraillée par le fait que vous avez beaucoup de choses à faire en même temps?
Oui, je suis très tiraillée. Et je suis tiraillée, bien sûr, dans l'emploi du temps. Ça, c'est sûr que j'aimerais beaucoup avoir plus de 24 heures par jour, mais c'est difficile.
Même la relativité ne vous aidera pas.
Même la relativité ne m'aide pas là-dedans. Mais au-delà de ça, oui, je suis tiraillée parce que comme on est tiraillé par ses passions. Quand je suis au théâtre, je suis pleinement au théâtre, j'aime ce que je fais, je baigne complètement dans une pièce ou dans la réflexion que je peux avoir sur notre programmation ou d'autres choses. Et puis quand je suis au laboratoire, je suis complètement dans la science, dans la volonté de comprendre les phénomènes que j'observe, dans les discussions avec mes étudiants aussi.
Seriez-vous clivé ?
Est-ce que je suis clivé ? Oui, sans doute. Clivé, je ne sais pas, fracturé peut-être,
ben voilà.
Oui.
Voilà une explication psychanalytique de votre double parcours. Vous y avez déjà pensé ou ça vient comme ça ?
Oui, bien sûr, un peu, parce que quand on se dit, bon, je consacre ma vie scientifique à étudier la rupture, où est la faille ?
Et où est la dissociation ?
Tout à fait. Mais non, je me sens, disons, de moins en moins clivée. Je crois que le fait d'avoir maintenant ces deux activités, je dirais officiellement, voilà, j'ai ces deux activités, ces deux amours.
Vous les
faites converger. Ça me déchire moins. Mais on est toujours tiraillé par ses passions. Quand on aime, on a envie d'être complètement dans une chose, de s'y plonger totalement. Et encore une fois, j'essaye de le faire, mais on a toujours derrière la tête cet autre amour qui vous appelle aussi.
Donc peut-être que vous êtes en train de passer de la fracture au collage.
Ah oui,
ces deux activités qui étaient dissociées sont en train de converger grâce à... En fait, que vous avez un théâtre que vous dirigez, vous pouvez cumuler et même harmoniser ces deux passions.
Oui,
celle
tout
de
à
la
fait.
Science, celle de la langue française.
Tout à fait. Et le collage est une bonne image. J'ai envie de dire que quand quelque chose se casse, le recoller, c'est parfois possible, mais en général, on ne réobtient pas l'objet initial. Il y a toujours un peu d'endommagement qui reste.
Mais est-ce que la physique du collage est aussi mystérieuse que celle de la fracture ?
Oui, je crois qu'il y a beaucoup de questions qui se posent encore sur les problèmes d'adhésion et c'est un domaine passionnant.
Elisabeth Bouchot, le temps a passé, nous allons devoir conclure. Donc, pouvez-vous nous dire ce qui va se passer à la Reine Blanche dans les jours qui viennent ?
Eh bien, demain, le 7 février, nous aurons un labo origine de Marie-Odile Monchicourt. Marie-Odile donc fait des expériences sur scène à la Reine Blanche. Et elle va faire monter sur scène Anatole Kelif, qui est un mathématicien, et Emma Lacloune, qui est, comme son nom l'indique, une clown. Et nous verrons ce qui émerge de cette rencontre entre la science mathématique et le théâtre.
Un mathématicien, une clown, voilà qui pourrait faire un joli collage. Merci Elisabeth Bouchot. Vous nous avez donné envie d'aller au théâtre et en même temps de faire la science. C'est un bel exploit. C'était la conversation scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Catherine Madure, à la technique Nicolas Delmas et à la réalisation François Connac. Tout de suite, c'est-à-dire dans quelques instants, vous retrouvez Projection Privée par Michel Simon.